Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, Dieu de grâce, Dieu de l'univers, nous te disons merci ce matin parce que tu es digne d'être élevé, digne d'être exalté, le Dieu saint, le maître des temps et des circonstances, le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Nous te célébrons ce matin parce que tu es saint, trois fois saint. Merci pour ta parole que nous voulons écouter. Laisse que l'homme disparaisse, que tu apparaisses pour la gloire de ton nom. Bénissons tout un chacun et nous chassons tout esprit de l'ennemi qui ne confesse pas le nom de Jésus en ces lieux. Nous voulons que ta grâce et ta miséricorde prennent soin de tout un chacun. Ouvre nos yeux spirituels et nos oreilles spirituelles afin que nous puissions entendre pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la journée d'aujourd'hui. Et ce que j'aime beaucoup ce matin est que Dieu nous a donné la vie et il continue à nous protéger. La Bible déclare, même si je marchais dans la vallée de l'ombre de la mort, ton bâton et ta houlette me rassurent. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quelles que soient les maladies, quelles que soient tout ce que nous pouvons traverser, la Bible déclare que rien ne me séparera de l'amour de Christ. Alléluia. Ce que nous devons noter ce matin est que le Seigneur combat toujours pour nous chaque jour. Même quand nous dormons, le Seigneur combat toujours pour nous. Alléluia. Ce matin, j'aimais beaucoup le modérateur, tout ce qu'il a fait et ça marchait conformément à la parole de Dieu. Il a parlé de la sainteté, comment Dieu est saint, toutes ces choses, la sainteté de Dieu, trois fois saint, et ça marchait immédiatement, complètement avec le message, parce que quand Dieu fait quelque chose, il le fait et il le confirme. Alléluia. Ce matin, j'aimerais parler du tabernacle. Du tabernacle, nous avons parlé, quand nous sommes arrivés au mois de décembre, nous avons parlé de la naissance de Jésus. Après, nous sommes arrivés au mois de mars, avril, là on a parlé de la crucifixion de Christ. Après, nous avons parlé de Pâques. Et toutes ces choses-là symbolisaient quelque chose dans l'Ancien Testament. La Bible déclare que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Alléluia. Et après, j'aimerais un peu que nous puissions entrer en profondeur pour que nous puissions comprendre pourquoi Dieu a voulu que les enfants d'Israël, que Moïse bâtisse les tabernacles. Et ça va nous aider beaucoup pour bien comprendre, même si chaque fois que nous parlons du tabernacle, nous allons comprendre ce que nous voulons dire. Nous allons lire Exode, c'est un long... beaucoup de chapitres, mais nous allons lire seulement, si vous voulez lire ça pour bien comprendre, vous allez lire à la maison, Exode chapitre 25 jusqu'au chapitre 40. Là, on est en train d'étaler maintenant les tabernacles, mais aujourd'hui, je vais parler seulement, je vais lire Exode chapitre 25, le verset 8. Exode chapitre 25, le verset 8. Exode chapitre 25, le verset 8, nous lisons au nom de Jésus. La Bible déclare, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Il dit qu'ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Je vais mettre ici. Et maintenant, le tabernacle que le Seigneur voulait que Moïse puisse faire, c'était pour que Dieu habite au milieu de ses enfants. Parce qu'il a appelé individuellement, il a appelé Abraham, il a appelé Isaac, il a appelé Jacob, il a appelé Noé, il a appelé beaucoup de serviteurs de Dieu d'une manière individuelle. Maintenant, Dieu a décidé maintenant d'habiter parmi son peuple. Maintenant, il a dit à Moïse, tu dois me faire les tabernacles pour que j'habite avec mon peuple. Et les tabernacles étaient composés de trois parties. Il y avait les parvis, il y avait les lieux saints et les lieux très saints. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a chanté beaucoup la sainteté. Le Seigneur lui-même savait qu'on allait arriver par ici. Dans ces trois parties, il y avait les parvis. Dans les parvis, il y avait l'autel d'Holocauste, une cuve d'airain. Et toutes ces choses ici avaient des symboles. Quand Dieu a mis l'autel d'Holocauste, il a mis encore une cuve là-bas. C'était des significations. Ça signifiait beaucoup de choses, jusque même dans le Nouveau Testament. Et après, nous avons les lieux saints. Les lieux saints, la Bible, la table des pains de proposition, les chandeliers d'or avec cette lampe, l'autel des parfums. Ça, c'était dans les lieux saints. Et dans les lieux très saints, il y avait l'arche et la verge d'Aaron. C'était toutes ces trois choses qui étaient comme ça. Maintenant, selon la révélation, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là? Dieu, quand il a voulu délivrer ses enfants en Égypte, dans les mains de Pharaon, il a dit pour la première fois, il a dit que vous allez immoler un agneau. Celui qui est un animal, il va immoler ça, il va mettre les sangs sur les lintons et sur les poteaux. Et après, l'ange passera pour frapper tous les premiers-nés des Égyptiens. Et maintenant, le sang de l'agneau qu'ils ont immolé, c'était le sang qui allait les protéger contre les malheurs qui devraient venir. Comme dans la vie normale où nous sommes aujourd'hui, sans le sang de Jésus, il n'y a pas la protection. C'est le sang de Jésus qui nous protège. Et maintenant, Israël était en Égypte et Dieu voulait les libérer de la main de Pharaon. Il fallait que Dieu envoie son serviteur Moïse. Dieu s'est révélé et il a tout fait en passant par la Pâque. Comme j'ai dit que l'agneau était immolé, il fallait mettre le sang sur les lintons et que les enfants d'Israël soient libérés, tous les enfants des Égyptiens. Et tous les enfants des Égyptiens, les premiers-nés, sont morts. Dans leur parcours, avant d'aller dans les déserts, le passage de la mer Rouge était le symbole du baptême. La première des choses, il a fallu que l'agneau soit immolé. Et il fallait maintenant qu'il passe par la mer Rouge qui symbolisait le baptême. Et après avoir passé par la mer Rouge, ils sont allés de l'autre côté. Avant d'aller dans le désert, Dieu a permis qu'il passe sur le mont des Sinaï. Et c'est sur le mont des Sinaï parce que Moïse a dit à Pharaon, Dieu a dit, laisse son peuple pour qu'il aille l'adorer. Pour l'adorer, il fallait aller à la montagne des Sinaï. Voilà pourquoi il a dit que nous allons partir avec tous nos bétails pour que nous puissions aller servir l'Éternel avec ça parce qu'on ne peut pas servir l'Éternel main vide. Israël commençait par passer par les baptêmes, c'est-à-dire tout enfant de Dieu qui a reçu Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel doit passer par les baptêmes. C'est un chemin qui est obligé. Nous avons des enfants qui sont en train de grandir, qu'on ne peut pas forcer à prendre les baptêmes. Nous les laissons à leur temps de la raison pour quand est-ce qu'ils vont prendre leur baptême. Dès qu'ils prennent la décision, après nous les baptisons. Mais pour des grandes personnes qui ont déjà reçu Christ, vous n'avez pas beaucoup de temps. Pour être en forme, pour être un bon chrétien, c'est un passage obligé qu'on doit passer par le baptême qui symbolise mourir avec Christ dans nos péchés et ressusciter avec lui dans sa gloire. C'est que cet vieil homme va mourir, reste dans l'eau, et après ressusciter avec Christ dans la gloire. Et sans le baptême, c'est un peu difficile pour plaire le Seigneur. Je sais que c'est un processus dans la vie, mais nous partons petit à petit. Dieu avait dit à Moïse, ils viendront m'adorer sur cette montagne. C'est la raison dans laquelle Moïse a dit à Pharaon qu'il fallait que ses enfants sortent pour aller l'adorer. Cette adoration, c'était les remerciements devant le Seigneur, dire merci à ce grand Dieu puissant qui les a enlevés du mains de Pharaon. Et puisque Moïse a dit à Pharaon que les enfants d'Israël doivent être libérés, c'est à ce temps-là où ils ont même multiplié leurs corvées et les travaux sont devenus très durs. Et Moïse était, comme il a grandi dans la maison de Pharaon, vous savez, Dieu aussi est multidimensionnel. Dieu voit ce qui se passe devant, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le frère de Joseph l'ont vendu, croyant que c'était un rêveur, quelqu'un qui avait des songes, ils l'ont vendu, mais ils ne savaient pas que c'était pour leur bien. Et même Moïse, quand il était dans la maison de Pharaon, personne ne pouvait aller devant Pharaon sans le connaître. Moïse savait comment, parce que c'était son grand-père adoptif. Moïse savait comment Pharaon se fâchait. Moïse savait comment Pharaon mangeait. Moïse connaissait Pharaon très bien. Voilà pourquoi quand Dieu l'a envoyé, quand Dieu t'envoie quelque part, c'est parce qu'il connaît que tu as la capacité. Quand Dieu t'envoie de faire quelque chose, même si tu dis que tu n'as rien, Dieu connaît qu'il y a les atouts en toi. Voilà pourquoi Dieu nous envoie à des moments de faire des missions qui sont très difficiles. À nous-mêmes, nous ne pouvons pas les faire, mais avec Dieu, nous allons faire des progrès avec Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons retenir ici? Il ne voulait pas le faire comme il faisait avec d'autres serviteurs, comme j'ai dit. Comme Dieu les avait déjà donné une promesse vers le pays de Canaan, il fallait la présence de l'Église. Le tabernacle symbolisait l'Église. Maintenant, comme Dieu savait qu'ils ont une promesse d'aller à Canaan, il fallait que Dieu habite au milieu d'eux. Pourquoi? Parce qu'en traversant vers Canaan, il y a des principautés, il y a des autorités qui pouvaient les freiner en route. Voilà pourquoi Dieu a permis qu'ils soient au milieu d'eux pour les diriger. Et après, Éphésiens chapitre 3, le verset 10. Éphésiens chapitre 3, le verset 10. C'est pourquoi les dominations et les autorités connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Il fallait que les dominations et les autorités connaissent la sagesse infiniment varié de Dieu. Parce que Dieu, ces gens-là, on a parlé des enfants, vous allez croiser les enfants, les Jubéciens, les Phérésiens, il y aura beaucoup de tribus que vous allez trouver en route, mais Moïse ou bien les enfants d'Israël n'avaient pas l'expérience de la guerre. Maintenant, comme ils n'avaient pas l'expérience de la guerre, ils venaient d'esclavagisme. Quand quelqu'un est sous l'esclavagisme, c'est un peureux. Il a la peur. Il a besoin d'un maître pour les protéger et pour les donner des tactiques comment combattre. Voilà pourquoi Dieu a voulu marcher avec ses enfants d'Israël. Et pour convaincre, pour vaincre ces esprits-là, il fallait que l'Église soit au milieu d'eux. Comme Jésus lui-même a prophétisé, il a dit que sur ces rocs, je bâtirai de mon Église et les portes de l'enfer ne prévendront point contre elle. C'est Jésus connaissait la puissance de l'Église. Les gens peuvent combattre toutes choses. Ils peuvent te combattre toi en tant qu'un homme. Mais quand tu es déjà une église, c'est très difficile pour te combattre. Le problème, l'église, ce n'est pas le mur que nous voyons. Bien sûr, quand nous venons, disons, nous allons à l'église. Mais quand nous allons à l'église, nous venons dans ces bâtiments ou nous venons dans ces chaises ici. Non, c'est nous tous, quand nous sommes ensemble comme ça, nous formons l'église. L'église, le corps mystique de Christ, le corps invisible. Maintenant, nous devenons une chose incomparable que personne ne peut détruire. C'est ce qu'on appelle l'Église. Ça, c'est Jésus a parlé ça en Matthieu 18. Et c'est roc, je bâtirai mon Église sur cette roc et les portes de l'enfer ne prévendront point contre elle. L'Église était devenue l'édifice. En Actes chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit est arrivé dans la chambre haute, la Bible déclare que il y avait des langues de feu qui descendaient comme des langues de feu et tous ils ont commencé à parler en langue. C'était ça même la naissance de l'Église. Et vous allez voir que quand l'Église était née, immédiatement, il y a eu des prodiges et des miracles qui se sont opérés parce que c'était ça même la promesse. Ils attendaient ces jours-là et c'était même la naissance de l'Église. Là, il y a eu naissance de l'Église et l'Église avait commencé. Comme Dieu voulait partout avec l'homme, il fallait la rencontre avec lui dans les tabernacles. Maintenant, la vraie rencontre de Dieu, c'est Jésus. C'est-à-dire, les tabernacles, c'est l'image de Jésus. C'est là où il y a la rencontre entre Dieu et l'homme. C'est la rencontre de Dieu entre Dieu et l'homme, c'est les tabernacles. Et les tabernacles, c'est Jésus lui-même. Jésus dit, personne ne peut aller vers mon Père sans passer par moi. Et dans la tente d'assignation, c'est Jésus lui-même. Tout le peuple devrait aller au tabernacle, mais chacun devrait porter les sacrifices. C'est-à-dire, dans l'Ancien Testament, la Bible déclare que c'était l'ombre des choses à venir. Maintenant, pour aller dans la présence de Dieu, David a dit que je ne peux pas aller dans la maison de Dieu me présenter mes brebis. Et il a dit que je ne peux pas offrir au Seigneur quelque chose qui ne m'écoute pas. Ça dépendra de la façon aussi comment nous offrons le Seigneur. Est-ce que nous offrons le Seigneur les choses qui restent? Vous savez, à des moments, surtout nous les chrétiens, il y a des moments, l'offrande, quand nous donnons les choses, les échanges qui sont restés, non. On dit que la Bible déclare qu'on te mesurera de la façon dont tu mesures les autres. C'est la façon dont tu es béni, ça dépend de la façon si tu bénis le Seigneur. Tu donnes paix, Dieu aussi te donne paix. Tu donnes beaucoup, on te donne aussi beaucoup. So, nous devons aussi changer notre façon d'offrir devant le Seigneur qui nous a gardé toute la journée, qui nous a gardé du 1er au 30, chaque jour. Vous savez combien de gens qui meurent chaque jour ici? Il y a les gens qui meurent. Il y a les accidents. Chaque 3 minutes, il y a des accidents. Les gens meurent chaque fois. Mais vous et moi, Dieu nous a protégés, pas parce que nous sommes dignes ou bien nous sommes saints. Non, c'est parce qu'il a voulu de nous et il nous aime. C'est notre Père. Il prend soin de nous. Ce n'est pas parce que nous avons Christ, non. Il y a des chrétiens qui meurent aussi. C'est Dieu. Quand la Bible déclare que pour tous ceux-là qui vivent, il y a de l'espérance. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Qu'est-ce que nous devons comprendre aujourd'hui? Les tabernacles avaient 3 parties, les parvis. Il y avait les parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Les parvis, c'est le rassemblement de peuple qui est l'image de l'Église ou l'ensemble local. Les parvis, c'est ça, nous qui sommes ici, on appelle les parvis, qui est l'image de peuple, les rassemblements. C'est ça même les parvis. C'est-à-dire qu'il y avait 3 parties. Comme il y avait 3 parties, il y avait les lieux saints, et les lieux très saints et les parvis. Ce n'est pas tout le monde qui pouvait entrer dans les lieux très saints. Parce que là, tu entres et tu meurs. Il n'y avait pas moyen d'entrer là-dedans. Maintenant, il fallait... les lieux saints, c'était l'image de l'Église spirituelle qui est le corps de Jésus-Christ. Les lieux très saints, c'est là l'habitation de Dieu lui-même. Chaque individu qui venait là-bas apportait un animal qui l'égorgeait et le mettait sur l'autel et lavait les mains, qui était le signe de baptême. Parce qu'il fallait que les gens, il fallait qu'il y ait le sang et de l'eau. Amen. Et maintenant, dans la révélation, quand nous voulons comprendre cela selon la révélation, dans les parvis, il y avait la croix de Jésus. C'est la croix de Jésus qui a servi d'autel où tout le monde avait dans la présence de Dieu, il y avait d'abord la croix qui nous devançait dans toutes choses. Pourquoi la croix? Parce qu'il fallait que le sang coule. Jésus, à la croix de Golgotha, il a fait couler son sang. Ça, nous voyons la croix. Et immédiatement, dans les parvis, il fallait que le sang coule, le sang d'un animal. Il fallait que le sang de l'animal coule. Et après ça, à la fin, Jésus, quand on a percé ses côtes, c'était l'eau qui était sortie. Amen. Et maintenant, la présence de Dieu, il y a d'abord la croix qui nous devance dans toutes choses. Voilà pourquoi Jésus a dit, si tu veux me suivre, charge-toi de ta croix. C'est si tu veux suivre Jésus, prends d'abord la croix. La croix, c'est quoi? C'est la signification, c'est ce que moi j'appelle la relation horizontale et verticale. La Bible déclare que rechercher la paix avec tous, tout le monde qui est comme ça, tous, est la sanctification sans laquelle personne ne verra les Seigneurs. C'est-à-dire que sans la croix c'est quoi? C'est accepter les injures, accepter les souffrances, accepter ce que tu es en train de traverser pour arriver à la purification. Si Jésus n'avait pas accepté la croix, à la croix il y avait l'humiliation, à la croix il y avait les injures, à la croix il a pris tous nos péchés. Et comme il avait beaucoup de péchés sur ses épaules, à la fin il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Comme Dieu n'accepte pas les pécheurs, il n'y avait pas moyen que Dieu accepte Jésus. Parce qu'à ce temps-là, il était déjà pécheur. Il avait pris tous nos péchés. Il a dit que Dieu n'accepte pas les pécheurs. Comme Jésus avait déjà les péchés sur ses épaules, cette prière-là jusqu'à aujourd'hui n'a pas été répondue. Dieu n'a pas répondu parce qu'il avait des péchés. Il fallait qu'il meure, que ce vieil homme-là du péché soit transformé et qu'il ressuscite avec un corps glorieux. Le sang montre la sanctification. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra les Seigneurs. Et le sang, là, c'est le sang qui nous sanctifie. Qui dit que non, sans la sanctification. Aujourd'hui, ce matin, on a parlé encore de la sanctification. C'est Jésus qui nous sanctifie. Nous sommes des humains. À des moments, nous branchons. Personne n'est saint. Même Jésus lui-même a dit que personne n'est saint, seul mon Père qui est dans le ciel, qui est saint. Pourquoi Jésus a dit ça? Parce qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Et après la sanctification, le souverain sacrificateur Josué s'est retrouvé devant Dieu avec les habits sales. Maintenant, le diable est venu en train de les condamner. Mais Dieu a dit à l'ange, donne-lui une robe blanche parce que c'est un tuisson tué dans le feu. C'est-à-dire que tel que nous sommes là, nous avons beaucoup de choses qui arrivent dans nos vies. À des moments, nous nous fâchons. À des moments, surtout nous qui avons encore des enfants qui sont encore petites là, c'est grave. À des moments, vous parlez, vous dites, mais je deviens fou ou quoi? Il y a une petite histoire, il y avait des personnes qui étaient parties chercher les fétiches pour avoir des enfants, comme ils n'avaient pas des enfants. Et maintenant, le féticheur les a dit, pour avoir des enfants, vous devez devenir fou. L'autre a dit, non, moi, je ne peux pas devenir fou. Allez manger les choses des poubelles, non. L'autre a dit, que, mais pour avoir les enfants, moi, je vais devenir fou. Il a accepté. Et là, il premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant. Maintenant, il rentre chez le féticheur, il dit, mais tu avais dit que je serais fou. Pourquoi je ne suis pas fou? Le féticheur dit, que non, la folie, c'est ça. Laisse! Ne prends pas, ne touche pas. Toi, qu'est-ce que tu fais? C'est ça même la folie. Amen. C'est ça la folie. À des moments, vous venez le soir comme ça avant de. Vous voulez que les enfants, vous priez seulement avec les enfants le soir. Quand ils vont dormir là, vous avez maintenant votre temps de parler très bien. Parce que quand ils sont là, en train, ils touchent ça, celui-ci vient, il dit, maman, celui-ci a fait comme ça, papa, celui-ci a fait comme ça, celui-ci a pris mon histoire, celui-ci a fait comme ça. C'est-à-dire, terrible, vous venez là. C'est ça même la folie. Si tu as des enfants, sache qu'il y a la folie là-dedans. Mais nous tous, nous sommes passés par là. Chez nous, il y a un adage qui dit les cochons qui demandent à sa maman qu'est-ce qui est sur ton nez là. Le cochon a répondu à son enfant que quand tu vas grandir, tu le sauras. C'est quand tu grandis maintenant, tu commences à comprendre que même ce que les enfants sont en train de faire là, je viens aussi par là. Il faut toujours la patience. Amen. C'est-à-dire, chaque enfant de Dieu doit d'abord naître de nouveau. Cet eau-là, c'était la naissance, le baptême. Il y avait le sang qui était la sanctification et l'eau, c'était pour se laver les mains. Et cette eau-là symbolisait le baptême. C'est tout un enfant de Dieu, enfant de croiser Christ, tu dois être né de nouveau. Ça, c'était le symbole du baptême. Sans le baptême, tu n'es pas né de nouveau. Voilà pourquoi quand les gens ne sont pas nés de nouveau, il y a toujours des querelles, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des difficultés. Nous sommes des gens, mais nous devons venir au niveau où la Bible déclare que la Bible dit « soyez en colère ». La Bible nous permet de se fâcher. Mais que votre colère, que le soleil ne se couche pas. Mais il y a des gens aujourd'hui qui gardent les autres dans les cœurs. Je ne parlerai jamais avec lui. Tu prends quelqu'un, tu le mets dans la prison de ton cœur là, et c'est fini, tu marches avec lui chaque fois. Il y a beaucoup de gens qui ont des prisons dans leur cœur, qui mettent les gens dedans. Je ne parlerai jamais avec lui. Non. La Bible ne nous dit pas de ne pas parler aux gens. Nous devons prier pour les autres, prier pour tout un chacun, afin que nous puissions voir le Seigneur. Chaque enfant de Dieu doit d'abord naître de nouveau. Nous devons être baptisés. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'appellent pasteurs, bishops, évangélistes et tout ça. Mais il y a des moments, les choses qui se passent, vous allez voir, vous vous demandez à des moments, est-ce que ces gens ici sont nés de nouveau ou pas? Parce que si on n'est pas né de nouveau, la chose nous rattrapera un jour. C'est pourquoi Christ a dit à Nicodème, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne verras jamais le royaume de Dieu. C'est nous devons être nés de nouveau pour que les vieils hommes meurent. Il y a beaucoup de chrétiens, leur vieil homme n'est pas encore mort. Quand tu vois quelqu'un qui te dit que, je me souviens quand j'étais encore boxeur, j'allais te faire du mal. Non, non. La Bible déclare qu'une personne en Christ est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. On ne se souvient pas de ce qu'on était avant. On ne se souvient pas de ce qu'on était boxeur, on était qui. Non, c'est Christ qui nous brise maintenant. Nous acceptons tout. On peut nous injurer à cause de Christ. Ça fait du mal. Mais vous savez, il y a des moments, il y a des choses qui t'arrivent comme ça. Tu arrives comme ça, tu dis, Seigneur, ça c'est quoi? Mais tu dis seulement, Seigneur, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. À des moments, nous voulons nous venger à la place où nous ne pouvons pas nous venger. Laissez Dieu venger. Jésus a dit que si on te donne ce côté ici, donne l'autre côté. Vous savez, ça signifie quoi? Dieu ne voulait pas que nous puissions nous venger. La place où Dieu pouvait donner un coup, mais toi tu donnes comme ça. Laisse seulement à Dieu lui-même venger pour vous. Amen. Si on n'est pas né de nouveau, il n'y a pas moyen de voir le Seigneur. Et l'Esprit, tu ne verras jamais le royaume de Dieu. Christ a parlé dans la double naissance. Et dans la double naissance, il y avait de l'eau et il y avait du sang. C'est ce qu'on appelle la double naissance. Être sanctifié et être né de nouveau. C'est l'image de double naissance. L'autel a servi également de nous tailler. Être des pierres bien taillées pour avoir une bonne mesure d'entrer dans les tabernacles, dans les murs du tabernacle. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous devons être bien taillés pour entrer dans la maison. Parce que si la pierre n'est pas bien taillée, pour que la pierre prenne sa place, elle va faire beaucoup de bruit. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a beaucoup de bruit dans l'église. Les gens murmurent. Les gens parlent, les gens ne veulent pas parler, La Bible déclare à la parole, au témoignage, si nous ne parlons pas, il n'y aura pas de l'aurore. Si la pierre n'est pas bien taillée, nous devons être bien taillés par Christ, et c'est là où nous allons entrer maintenant dans cet édifice-là qui est le tabernacle. Mais si nous ne sommes pas bien taillés, il n'y a pas moyen qu'on entre dans cet édifice-là. Si on n'est pas bien taillé, lorsqu'on va nous bâtir à la maison de Dieu, il y aura des bruits, certainement. Il y aura l'échange de paroles, de problèmes, il y aura beaucoup de choses. La croix nous a servi d'autel pour qu'on soit taillé avant d'être bâti dans la maison de l'Éternel. C'est-à-dire qu'avant que nous puissions être appelés l'Église, la maison de l'Éternel, il y a des processus, il y a l'affermissement. Nous devons passer par les chemins que tout le monde va passer. Nous venons à la réception de Christ et après nous passons par le baptême et nous sommes sanctifiés. Nous devenons maintenant des pierres vivantes qu'on va mettre maintenant dans la maison pour que nous puissions bien servir le Seigneur. Toutes ces choses étaient à l'extérieur dans les parvis. Les gens qui ne sont pas taillés, qui n'ont pas encore jeté leur vieil homme, ne peuvent pas entrer dans la tente d'assignation. Pour entrer dans la tente d'assignation, il fallait, et les sacrificateurs qui entraient là-dedans, dans les lieux saints, il fallait d'abord qu'ils se lavent, il fallait d'abord qu'ils se sanctifient pour entrer dedans. Sinon, sans la sanctification, personne ne pouvait pas voir le Seigneur. Ils ne sont pas bâtis à l'église spirituelle qui est Jésus-Christ. Et cette église qui forme le corps de Christ, qui est le véritable temple d'assignation, c'est là lui-même le Saint-Esprit. Avant d'entrer dans la tente d'assignation, il faut être taillé et être à la méthode ou à la façon dont Dieu veut être. Dans les parvis, c'était la croix de Christ qui était révélée. Il faut d'abord être taillé pour entrer dans l'édifice de Dieu, pour que la maison soit bâtie. C'est là la première des choses. Tout s'arrange au niveau des parvis. Chacun de nous doit passer par là. Tu dois être né de nouveau pour être une bonne pierre pour l'édifice. Pour que nous soyons une bonne pierre comme pour l'édifice, nous devons naître de nouveau. Et si nous sommes nés de nouveau, immédiatement, nous serons serviables. Quelqu'un qui est né de nouveau, vous n'avez même pas besoin de voir. La Bible déclare que vous les verrez par leurs œuvres. Sans le baptême, non, il faut d'abord être baptisé pour être maintenant utile pour l'édifice. Je vais parler pour la deuxième partie qui est le lieu saint. Dans le lieu saint, il y avait beaucoup de choses, les parfums, la cense, les chandeliers, les sacrificateurs, la table des propositions de pain. Là, on va donner deux révélations. Le lieu saint, c'est une église spirituelle, universelle, qui est le corps de Christ. Maintenant, nous tous, quand nous sommes rassemblés ici, physiquement en tant que les hommes, nous sommes dans les parvis. Nous sommes l'église locale. Maintenant, quand on entre dans le spirituel, nous devenons les lieux saints, qui est l'église spirituelle, qui est le corps de Christ, le corps mystique de Christ, c'est ce qu'on appelle l'église. La Bible déclare que moi et mon Père, nous sommes un. C'est-à-dire, immédiatement, nous devenons l'église de Christ, lui-même qui est la tête, et nous sommes les membres du corps de Christ. Amen. Nous devenons les membres du corps de Christ. Et qui doit être membre du corps de cette église? C'est celui qui est sanctifié. Or, Christ nous a fait tous un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire que quand nous devenons les corps de Christ, nous devenons le royaume des sacrificateurs. Et nous sommes maintenant ce qu'on appelle l'Église des dieux. Et quand on appelle l'Église, quand je dis que je pars à l'Église, c'est quand nous nous rassemblons tous ensemble, nous devenons ce qu'on appelle l'Église. Voilà pourquoi on peut se rassembler même en route, nous sommes l'Église. On peut aller dans les stades, nous sommes l'Église. Ici, nous avons mis seulement ça, les bâtiments avec les bancs pour que nous puissions être dans de bonnes conditions, confortables, contre le soleil, le vent, tout ça. Mais ce n'est pas ça qui fait l'Église. Ce qui fait l'Église, c'est vous et moi qui faisons l'Église. L'Église qui est le corps de Christ. Il y a un sacrificateur qui présentait là celui qui est né de nouveau. Il doit d'abord entrer pour former le royaume de l'Église spirituelle. C'est ça même l'Église. Là, il sera enlevé par l'Église locale. Quand on est immédiatement sanctifié, baptisé, purifié, nous devenons le corps de Christ. C'est ce corps de Christ-là qui est l'Église qui sera enlevée par Christ, qui est notre époux, pour aller dans la fête des noces. C'est ça même l'Église qu'on appelle. C'est-à-dire que c'est quelque chose que nous ne pouvons pas bien comprendre, mais c'est spirituel. À des moments, quand nous sommes ensemble comme ça, nous formons une force. Jésus dit que sur cette pierre, je bâtirai de mon église, les portes de l'enfer ne prévendront point contre elle. Personne ne peut se lever contre l'église, quel que soit le gouvernement, quel que soit comment. Le plan du diable, c'était qu'à partir de cette épidémie qu'on appelait coronavirus, pour que tout soit paralysé. Le plan du diable, c'était que à partir de ça, vous allez voir qu'il y a des restrictions. Nous ne pouvons pas prier à 20, nous pouvons prier à 30. Nous sommes, à des moments, l'église est fermée. Non, la mission du diable, c'était derrière cette épidémie pour détruire l'église. Mais comme Jésus a dit que les portes de l'enfer ne prévendront point contre elle, voilà pourquoi le diable a échoué sa mission. Et nous continuons toujours à nous rassembler. C'est avant que toutes ces choses, des restrictions formelles arrivent, il fallait que l'église soit enlevée. Et le diable maintenant voulait profiter, parce qu'il n'a pas beaucoup de temps. Il a peu de temps. Il est en train de forcer maintenant les choses pour prendre les choses qui pouvaient passer dans la tribulation et les amener dans notre vie. Non, non. Nous, l'église, nous avons le pouvoir. Jésus a dit que tout pouvoir m'a été donné. Allez! Quand il nous a dit qu'allez, il nous a donné le pouvoir. Il y a des choses qui arrivent aujourd'hui dans notre vie normale, c'est parce que nous, l'Église, nous sommes endormis. Si nous, l'Église, nous nous levons, le diable ne peut pas passer aucune chose dans ce monde où nous sommes parce que nous avons notre 2000 ans. Depuis que l'Église était née jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2000 ans. On a commencé en 2000 ans jusque-là, mais les 2000 ans-là, nous devons les compter à partir de la naissance de Christ et de l'Église. Les jours où l'apôtre Paul a prêché et les âmes ont été sauvées, quand le Saint-Esprit est descendu, c'est là où nous commençons notre 1 pour avoir notre 2000 ans. C'est-à-dire que notre 2000 ans n'est pas encore épuisé. Et comme ce n'est pas encore épuisé, le diable n'a pas aucun pouvoir d'agir. Nous, nous sommes là, Dieu nous a amenés afin que nous puissions contrer ou bien être, s'opposer à tout ce qu'il est en train de faire. Je vais finir maintenant. Et les gens qui doivent être les membres de cette église, ce sont les gens qui sont lavés par le sang de Jésus et qui vont rencontrer le Christ. Et là-bas, il y avait les cultes dans les lieux saints. Il y avait les sacrificateurs qui représentaient Christ. Les sacrificateurs représentaient Christ parce qu'il fallait qu'ils fassent les cultes. Les sacrificateurs représentaient Christ. Là-bas, il y avait les chandeliers qui est l'image du Saint-Esprit. Il y avait aussi les chandeliers qui est l'image du Saint-Esprit. Il y avait le pain de proposition qui est la parole de Dieu. C'est-à-dire dans le lieu très saint et dans le lieu saint où nous sommes aujourd'hui, nous avons des sacrificateurs qui nous donnent la parole de Dieu. Et si le pain de proposition était pour les sacrificateurs, c'était pour qu'ils le mangent. Ça, c'est la parole de Dieu que nous mangeons, qu'on nous prêche chaque dimanche, même dans les réunions de prière, c'est ça même la parole de Dieu. Et nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et ça, même la table dépeint des propositions. Chaque fois que nous venons manger la parole de Dieu parce que la Bible déclare que l'homme ne vivra jamais seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et il y avait la sens, c'est l'adoration. Ce matin, on a parlé de l'adoration. Il y avait la sens qui signifie l'adoration. Il y avait le parfum qui signifiait les prières. Vous allez voir, dans notre culte normal que nous sommes, nous avons l'adoration, nous avons la prière, nous avons les offrandes, nous avons la parole de Dieu. C'est ce qui symbolise les cultes que nous avons. Il fallait que les sacrifices, les sacrificateurs fassent cela. Parce que quand nous parlons de tabernacle, mais si nous ne comprenons pas ceux qui sont là-dedans, nous serons perdus. Et voilà comment l'Église spirituelle, qui est le corps de Christ, doit être constituée. Les croyants forment les royaumes des sacrificateurs. La Bible dit, le vrai adorateur adorant Dieu en esprit et en vérité. Tant qu'on n'est pas un homme esprit, difficile d'adorer le Seigneur. Nous sommes des hommes. L'homme a trois parties, le corps, l'esprit et l'âme. Mais nous devons être des hommes esprit. Parce que la Bible déclare, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, contre les autorités, les dominations, les principautés dans les lieux célestes. Maintenant, pour les combattre, nous devons être des hommes esprit. Parce que quand nous dormons, nous ne savons pas ce qui se passe. Mais quand vous rêvez, c'est votre esprit qui est en train de voir tout ce qui se passe. Quand vous vous réveillez le matin, vous ne savez même pas. Il y a des gens qui ne savent même pas là où ils sont. Quand vous dormez, vous ne rêvez pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous devez rêver, vous devez voir. Tu es dans les rêves, tu vois des choses, mais tu arrives le matin comme ça, c'est tout, c'est parti. Je ne me souviens même pas de ça. Non, non. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Dieu nous parle à des moments dans les songes. Il y a des gens que Dieu parle, leur parle dans l'oreille, ils écoutent. Il y a des gens que Dieu leur parle par la vision. Et il y a des gens que Dieu leur parle par la vision nocturne. Nous devons, chaque fois quand nous prions, que Seigneur, nous voulons dormir maintenant, parle-nous. Et quand Dieu va nous parler, nous allons comprendre quelque chose. Le Saint-Esprit, un esprit pour participer dans le royaume, parce que c'est l'Église qui a la marque du Saint-Esprit qui sera enlevée. Ça, c'est l'Église. Sans cela, il n'y aura point d'enlèvement. Si nous n'avons pas ces choses-là, il n'y a pas l'enlèvement. Si nous ne sommes pas les corps de Christ, il n'y a pas l'enlèvement. C'est l'enlèvement, quand Christ viendra, il va prendre, c'est l'Église spirituelle. Que nous qui sommes constitués ensemble, nous devenons une Église spirituelle et Christ va nous prendre. Soyez des sacrificateurs, vous êtes des races royales, un peuple acquis par la vertu de Dieu. Et pour annoncer la vertu de Dieu, la bonne nouvelle, une autre chose montre encore que les sacrificateurs étaient là, avaient les pieds sur le désert. Ça montre l'Église qui est encore sur la terre, qui sera enlevée. Écoute, l'Église, comme elle est encore sur la terre, elle sera enlevée. Jésus, la personne, et si nous ne sommes pas nés de nouveau, il n'y a pas moyen d'être enlevé. L'Église qui était là, la parole de Dieu, qui marche selon la parole de Dieu, qui attendent l'époux, qui est le Christ. Je vais terminer dans 5 minutes. La Bible, la table là qui avait le pain, dans d'autres termes, c'est Christ qui transporte le peuple. C'est Christ qui doit nous présenter vers le Père. Personne d'autre, c'est par Christ. Après la fête des noces, Jésus maintenant va nous présenter devant le Père. Et je vais parler pour la troisième chose pour terminer dans 3 minutes, le lieu très saint. Dans le lieu très saint, il y avait l'arche et la verge d'Aaron. L'arche symbolise Dieu lui-même. Voilà pourquoi, si quelqu'un entrait dedans, il fallait qu'on qu'on mette les cordes sur les pieds, tout ça, quand la personne entre dedans, pour que s'il mourait là-dedans, on les tire, parce que personne ne peut entrer là-dedans sans que tu sois un sacrificateur. Et c'était Dieu lui-même, comme en Apocalypse chapitre 21, on parle des dieux qui étaient seuls dans la cité, une cité qui est cubique, tout ça, Dieu était lui-même dans la cité, c'est-à-dire que c'est là où Dieu est, dans les lieux très saints. Et personne ne pouvait pas voir Dieu et vivre. Voilà pourquoi maintenant, Dieu, comme il avait besoin de son peuple, il fallait qu'il envahisse Christ. Voilà pourquoi Christ est venu, maintenant nous l'avons vu. Philippe lui a demandé, mais montre-nous le Père, cela nous suffit. Il a dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Voilà pourquoi il a voulu habiter au milieu de son peuple, pour que le peuple lui pose des questions, pour que le peuple le voie. Et parce que le voir, personne ne peut le voir et vivre. Maintenant, quand nous serons là avec Christ, après les fêtes des noces, c'est Christ maintenant qui va nous présenter devant son Père, en tant que nous qui étions des fiancés, maintenant il nous amène, nous, sa femme, pour les présenter vers son Père. Et il y avait aussi la Vierge d'Aaron, qui symbolisait, la Vierge symbolisait Christ lui-même. Parce que la Vierge était, quand on parle de la Vierge, on voit comment la Vierge est sec. C'est-à-dire ça symbolise la mort et la résurrection. Parce qu'une Vierge, avant qu'on appelle Vierge, elle ne vient pas seulement automatiquement, comme ça on coupe un arbre qui était vivant, après, l'arbre doit sécher. C'est cette verge-là qui était à côté. Et c'est la même verge-là que Moïse a utilisée pour que la mer rouge s'ouvre. Et cette verge-là, c'est lui qui les a délivrés de la mer rouge, c'était Christ. Et cette verge-là, c'est Christ qui est assis à côté du Père. Il a fallu qu'il meure, qu'il récite et qu'il s'assoie à côté du Seigneur. Ce matin, on voulait parler de ces trois choses pour que nous puissions comprendre les tabernacles, c'est toi. Les tabernacles, c'est qui? Les tabernacles, c'est toi. La Bible déclare que quand nous sommes dans ces vieils hommes, nous attendons notre tabernacle. Lisons d'abord ça pour terminer, pour que nous puissions bien comprendre ça un peu. Je pense que c'est 2 Corinthiens. 15, hein? De Corinthiens. Un instant. Ouais. De Corinthiens 5. Vous pouvez lire pour nous, s'il vous plaît. De Corinthiens 5. OK. De Corinthiens 5. De Corinthiens 5. OK. Ici, on parle de l'attente. Et il y a aussi, je pense, 1 Corinthiens 15. Ici, on parle de la tente. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons, les corps, sur la terre, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de mains d'hommes. C'est-à-dire que les corps que nous avons ici, c'est ça même l'édifice. Et le corps, quand Jésus a dit que je m'en vais vous préparer des places dans la maison de mon Père. Maintenant, les gens croient que quand nous allons aller au ciel, nous allons trouver des chambres à coucher et tout ça. Non, c'est le corps que Christ a préparé. Parce que le corps que nous avons, la tente que nous avons ici, nous gémissons dans cette tente, espérant la tente spirituelle que nous allons nous vêtir, qui est le corps de Christ. Quand Christ viendra, immédiatement nous allons nous vêtir de ce corps-là qui est glorieux. Et quand nous partons à 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15, je pense 50 quelques, non, c'est 2 ou bien 1, je pense, c'est le même 1 ici, 15, je pense, 15, 50 quelques comme ça. Non, c'est 1, c'est 1 Corinthiens. OK, 1 Corinthiens. Oui, je vais descendre d'abord sur 50. Ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang hériteront les royaumes des dieux. C'est-à-dire que ces corps ici ne peuvent pas hériter les royaumes des dieux. et que l'incorruptible n'héritera pas la corruption n'héritera pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant et en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera, bon, je pense, descendons 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors l'accomplira la parole qui dit, ô mort, où est ton aiguillon, ton esprit, Christ. Je pense que c'est 44, l'abbé déclare, à partir de 40, nous descendons, l'abbé déclare que nous sommes dans ce corps, mais nous gémissons, espérant revêtir le corps qui nous est réservé dans le ciel. Amen. Amen. Hein? C'est-à-dire que le corps que nous avons, c'est un corps qui est physique, mais nous avons un corps spirituel qui est le tabernacle. Parce que si on parle du tente que nous avons, nous sommes dans cette tente terrestre, mais quand Christ va venir, nous allons nous bâtir, nous allons nous vêture de ce temple-là qui est le corps que Christ a formé pour nous. C'est ça même le corps incorruptible quand nous serons changés en un clin d'œil. Maintenant, le corps-là, quand les gens disent que non, non, au ciel, il y aura ça dans la maison, non, c'est le corps, la Bible déclare, c'est là qui prêcheront à plusieurs, brilleront comme des étoiles, c'est en Daniel. C'est-à-dire que ce sont les œuvres que nous faisons, l'évangélisation que nous faisons, les gens que nous gagnons, quand nous les amenons en Christ, nous avons des étoiles. C'est voilà pourquoi il y a des couronnes de gloire, de justice. Toutes ces couronnes-là nous seront données à partir de ce que nous faisons. Voilà pourquoi au ciel, quand nous allons partir au ciel, il y aura des gens qui ne vont pas briller comme des étoiles. C'est-à-dire, quand nous sommes sur la terre, nous devons faire l'œuvre de Dieu pour que nous soyons couronnés. Ce sont les œuvres qui vont nous couronner au ciel. Nous aurons le même corps, mais l'apparence ou bien nous allons briller différemment à partir de ce que nous faisons. Voilà pourquoi, sois chrétien, mais prêche la bonne nouvelle. Fais du bien, continue à faire du bien, aide les pauvres, sois bien avec les gens, fais de bonnes œuvres pour qu'un jour, que nous soyons couronnés, mais quand nous serons au ciel, nous ne serons pas dans la même dimension. Il y aura les gens qui seront élevés et les gens qui seront, voilà pourquoi on dit que ceux-là qui prêcheront à plusieurs brilleront comme des étoiles. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, notre Roi, nous te disons merci ce matin pour la parole que tu nous as envoyée. La Bible déclare que la parole que vous avez écoutée est vie et esprit. Merci, laisse que cette parole nous vivifie, nous donne la force. Est-ce que cette parole nous montre et nous aide à voir des choses de la façon dont toi tu vois, tu veux que nous puissions les voir? Nous bénissons tout un chacun, bénis-nous, couvre-nous par ton sang. Laisse que le Saint-Esprit nous puisse nous enseigner encore davantage au nom de Jésus-Christ. Amen.